Je m'appelle Agnès Sinaï. Je m'intéresse à l'écologie depuis longtemps. Je me suis engagée en écologie il y a une bonne vingtaine d'années, voire plus, et j'ai développé une activité de journaliste environnemental, plutôt journaliste engagée. J'ai écrit beaucoup pour le monde diplomatique. Et j'ai fondé il y a 10 ans l'Institut Momentum parce que je me suis intéressée de fil en aiguille à la question de l'anthropocène. Car en tant que journaliste, j'ai assisté à de nombreux sommets internationaux sur le climat et ayant fréquenté cette diplomatie environnementale, je suis arrivée à la conclusion que les accords et les traités sur le climat, sur la biodiversité, ne répondaient pas à la grande accélération en cours de la dégradation du système Terre, et qu'en fait on avait affaire à bien plus qu'une crise écologique, mais vraiment à une immense déstabilisation de l'ensemble des écosystèmes et de la vie sur Terre. Et à ce moment-là, j'ai découvert le thème de l'anthropocène, hein, qui a émergé au début des années 2000, qui a été introduit par un historien des sciences, Jacques Greenwald, que je connaissais. Et en fait, je me suis saisie du concept d'anthropocène, qui pour moi résumait bien ce qui, encore une fois, est plus qu'un ensemble de crises écologiques isolées, crise de l'eau, crise de la biodiversité. Il s'agit vraiment, et on est aujourd'hui confronté à un basculement du vivant et du système Terre et des établissements humains dans un monde nouveau qui risque d'être hautement perturbé par le dérèglement climatique et par cet ensemble d'éléments qui constituent une grande accélération qui nous emporte vers une terra incognita. Donc, qui suis-je? Eh bien, quelqu'un qui se préoccupe du devenir écologique de la planète et qui s'intéresse à des politiques alternatives. Oui, en effet, en 2011, donc il y a 10 ans, j'ai eu l'intuition qu'il manquait en France et même dans le monde francophone un réseau de réflexion sur l'anthropocène, concept qui à l'époque n'était pas encore en vogue depuis les sciences sociales et Bruno Latour se sont emparés de l'anthropocène et c'est devenu maintenant un concept très débattu aujourd'hui, et tant mieux. Mais au début des années 2010, on connaissait peu cette notion d'anthropocène. Et à l'issue de mes activités de journaliste environnemental, comme voilà, j'ai eu le sentiment que il manquait en France un lieu de réflexion sur ce grand basculement en cours. J'étais allée en Californie du Nord rencontrer un think tank, un laboratoire d'idées qui s'appelle le Post Carbon Institute. Je m'intéressais au devenir des sociétés industrielles dans l'après-pétrole, puisque autour de 2009, on parlait encore beaucoup de pics pétroliers, on s'intéressait à la finitude des ressources, thème qui reste d'ailleurs pleinement d'actualité. Et donc, à l'issue de ce reportage en Californie qui a été publié dans Le Monde diplomatique en 2009, où je rencontre des figures du Post Carbon Institute comme Richard Heinberg qui avait écrit The Party is Over, la fête est finie, on arrive au bout d'un certain nombre de stocks de ressources non renouvelables et nos sociétés industrielles vont traverser des grandes perturbations à cause d'une pénurie de ressources cruciales. Donc je rencontre ce Richard Heinberg et d'autres en Californie du Nord et là j'ai un déclic et je me dis ce serait bien de doter le monde francophone d'un think tank visionnaire de l'après-pétrole, de la décroissance et de l'effondrement, mais aussi un think tank de propositions autour de la question de ce qu'on a appelé les politiques de l'anthropocène. Et on a appelé donc ce réseau de réflexion l'Institut Momentum, que nous avons fondé en mars 2011 à Paris. Coïncidence, cette première réunion a eu lieu le 10 mars 2011 et le 11 mars, avait lieu la catastrophe de Fukushima au Japon. Et donc, pour nous, ça a été une cristallisation étrange de voir coïncider la fondation de notre think tank avec, avec cette catastrophe de Fukushima, qui, à ce moment-là, à mon sens, marquait aussi un jalon de cette grande accélération vers la perturbation des sociétés industrielles encastrées à leur insu dans le système Terre. On l'a vu à Fukushima, c'est un tsunami qui a balayé la centrale parce que les forces telluriques ont un effet sur les infrastructures humaines qui ne sont pas éternelles. Et en fait, Fukushima, pour moi, symbolise le fait qu'on vit dans une parenthèse, que cette société qui est la nôtre, qui est une société d'abondance, d'exubérance énergétique, de consumérisme, en fait, existe depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale et va peut-être exister encore quelques dizaines d'années et va s'effondrer, soit sous la pression d'événements climatique, soit en raison d'une panne, soit d'une pandémie, soit surtout peut-être par la combinaison de tous ces facteurs qui font système. Et donc l'Institut Momentum, inspiré des recherches du Post Carbon Institute, a développé aussi un esprit systémique, je dirais, qui n'est pas du tout courant ici en Europe, en France. Nous n'avons pas un raisonnement systémique. Or, à la faveur de lectures de sociologues américains comme William Catton, par exemple, ou de lectures de Richard Heinberg, ou de lectures aussi sur la résilience écologique et la résilience des systèmes industriels, qui sont des références aussi plutôt anglo-saxonnes. En fait, l'Institut Momentum s'est nourri d'un certain nombre de pensées, y compris aussi celle de David Holmgren, le cofondateur de la permaculture, qui lui-même est inspiré de Howard Odum, Odum étant un écologue américain qui a fondé d'ailleurs avec son frère Eugène, la notion d'écosystème. Justement, alors, cette notion d'écosystème qui est peut-être un peu abstraite, elle est intéressante aussi parce qu'elle est holistique. C'est une pensée du tout et toutes les parties sont reliées entre elles. Il y a des interdépendances. Et donc, ce qui nous a intéressés dans la fondation de l'Institut de Momentum, c'est justement de développer une pensée systémique des établissements humains. Et une pensée de ces établissements humains dans le contexte de la grande accélération de l'Anthropocène. Je pourrais développer cette notion de grande accélération, si tu le souhaites maintenant. La grande accélération, c'est une autre manière de qualifier cette époque de l'Anthropocène, qui est donc une époque relativement récente dans l'histoire de la Terre. L'Anthropocène, c'est un néologisme hein, qui a été forgé par Eugène Störmer, un biologiste, et Paul Crutzen, un biochimiste, qui a d'ailleurs travaillé sur la couche d'ozone. Bref, ces deux scientifiques, au début des années 2000, écrivent un article dans la revue Nature en utilisant pour la première fois ce néologisme Anthropocène, parce que pour ces deux scientifiques, l'influence des activités humaines est de même ampleur que l'influence de forces naturelles, comme l'explosion de volcans ou la chute de météorites sur la planète, qui, dans les millions d'années qui ont constitué, pardon, l'histoire de la Terre, étaient des événements qui faisaient basculer la Terre dans des époques successives. Donc, par exemple, la Terre est régie par une succession d'ères glaciaires et interglaciaires depuis des centaines de millions d'années. Et officiellement, nous sommes actuellement dans une ère tempérée dite interglaciaire depuis environ 12 à 13 000 ans, dite Holocène. Donc c'est relativement récent, hein. 13 000 ans dans l'histoire de la Terre, c'est une toute petite période. Et il se trouve que le fragment actuel de l'Holocène n'est pas seulement régi par des forces terrestres, mais aussi par l'influence humaine sur le système Terre. D'où, d'après Paul Crutzen, ce géochimiste de la couche d'ozone, la nécessité de véhiculer une nouvelle appellation de l'époque de cette histoire de la Terre, pas seulement Holocène, on n'est pas seulement dans un interglaciaire tempéré, mais on est en train d'entrer dans une époque climatique nouvelle, dans un nouveau régime climatique, comme dit Bruno Latour, qui est régi par les forces industrielles en réalité, par les activités humaines et surtout, en particulier, la manière dont les sociétés industrielles ont agencé leur rapport au monde et à la nature depuis environ 200 ans. Et surtout, depuis 1945. D'où la notion de grande accélération qui est introduite par un climatologue australien qui s'appelle Will Stephen, qui, dans un article publié dans des revues scientifiques autour de 2007, introduit cette notion de Great Acceleration avec 24 graphiques hallucinants à l'appui. 12 planches décrivent l'accélération du dérèglement de variables cruciales du système Terre, comme par exemple les trois principaux gaz à effet de serre, mais aussi l'érosion des côtes, la chute de la biodiversité, le taux de déforestation. Ce sont donc 12 variables du système Terre. Et en regard de ces 12 variables du système Terre, Will Stephen et son équipe mettent 12 autres variables qui sont socio-économiques. En gros, depuis 1945, la courbe démographique est exponentielle. Depuis 1945, la courbe de production de télécommunications est exponentielle. Le nombre d'hectares cultivés dans le monde a décollé de manière exponentielle. La consommation d'énergie depuis 1945, pareil. Par rapport au début des courbes qu'il fait remonter à 1790, en gros, depuis qu'on a un peu des données météorologiques et climatiques, bref, toutes ces courbes ont pour point commun, qu'il s'agisse de celles du système Terre ou des systèmes socio-économiques et des grandes composantes de ces systèmes comme le PIB mondial, la démographie ou les consommations d'énergie, à chaque fois, ces 2 x 12 graphiques montrent des exponentielles depuis 1945. Alors, d'où cette description d'une grande accélération depuis 1945. Et c'est à ce moment-là que notre planète serait véritablement entrée dans cette époque de l'Anthropocène, aussi pour des raisons de cohérence géologique. Il se trouve que depuis 1945, ont été répandues sur l'ensemble de la planète des particules radioactives depuis les essais nucléaires qui ont précédé le largage des 2 bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki, les essais nucléaires dans le désert du Nouveau-Mexique pendant l'été 1945. Bref, à partir de 1945, en réalité, à la fois parce que la bombe atomique a explosé et aussi parce que l'économie s'est accélérée en raison de la mondialisation qui a été initiée par des institutions de libéralisation des échanges au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pour toutes ces raisons-là, on se retrouve à la fois dans une accélération de ces courbes et aussi dans une nouvelle géologie, à savoir que certains géologues, comme le Britannique Jan Zalasiewicz, recueillent dans la couche terrestre des échantillons et s'aperçoivent que aussi bien au pôle Nord qu'en Antarctique, que sur les monts alpins ou que au fond des mers, on trouve des particules de ce que Jan Zalasiewicz appelle des technofossiles. Donc en fait, les géologues constitués autour de Jan Zalasiewicz et du groupe de travail sur l'Anthropocène géologique s'aperçoivent qu'il y a une pertinence géologique aussi à changer d'appellation et à parler d'anthropocène. Parce que les fossiles, aujourd'hui, sont constitués d'une couche liée aux activités humaines et industrielles. Donc c'est assez saisissant. Et cette prise de conscience a énormément bouleversé les sciences humaines récemment. Bruno Latour a rencontré Jan Zalasiewicz. Et à ce moment-là, notre institut Momentum aussi entrer en résonance avec toutes ces recherches géologiques et continuer à produire des recherches sur ce qu'on a donc appelé les politiques de l'Anthropocène, parce que moi, en tant que fondatrice de cet institut Momentum, ce qui m'intéresse, certes, c'est de prendre la mesure de cet effondrement, parce qu'en fait, à la clé de cette grande accélération, il y a aussi le risque d'un collapse. Au bout des courbes exponentielles, il y a un plateau, et puis ensuite un décrochage qui pourrait être un crash. Donc ce type de conclusion de la grande accélération, sur quoi cette grande accélération débouche, est en train de déboucher, c'est sur une grande perturbation du système Terre et des établissements humains, sous la forme d'une descente, d'un crash, dont on ne sait pas si elle prendra la forme, cette descente, d'une descente énergétique créative, comme dirait le permaculteur David Holmgren, qui serait anticipée par des politiques de l'Anthropocène, justement, ou bien elle prendrait la forme d'un effondrement, d'un collapse, et ça c'est plutôt ce que soutient un Dennis Meadows, par exemple, qui dès 1972, dans le rapport au Club de Rome, Limits to Growth, halte à la croissance, tire la sonnette d'alarme sur le fait qu'au bout de ces décollages de cours, il va y avoir un breakdown, en quelque sorte. Voilà. Donc, il me semble qu'on en est là, et on est un certain nombre maintenant à se préoccuper de cette question d'effondrement, qu'on peut décrire comme un changement brusque d'état du système Terre, et ce changement d'état va emporter avec lui les sociétés humaines.
Tu as envie de nous expliquer un peu d'où vient le mot biorégion déjà, les origines de cette pensée?
Le mot biorégion a émergé effectivement en Californie dans le contexte des années 1970, à l'issue de la rencontre entre trois personnages, Peter Berg, qui habitait San Francisco et qui avait lancé une compagnie de théâtre de rue pendant les mouvements de contestation après 1968, une compagnie qui s'appelait les Diggers, et les Diggers, en français ça se traduit par les bêcheux, c'est ceux qui veulent reconquérir les communs, justement. Bref, Peter Berg était plutôt un poète, ou plutôt un homme de théâtre, un activiste, et avec lui, le poète Gary Snyder, qui lui est d'ailleurs encore vivant, qui était né en 1930. Peter Berg est né en 1937, il est décédé malheureusement. Alors que Gary Snyder, le poète, est également un poète de la nature, des grands espaces américains. Il habite le Colorado, dans un coin isolé, et ses poésies louent les grands espaces naturels des États-Unis, la liberté. Donc il y a eu cette rencontre entre Peter Berg, Gary Snyder et un écologue qui s'appelait Raymond Dasman, qui, en 1965, avait publié un essai qui s'appelait « La destruction de la Californie ». Et par ailleurs, Raymond Dasman travaillait pour les Nations Unies, en particulier pour l'Union internationale de la conservation de la nature, IUCN, International Union for the Conservation of Nature. Donc Raymond Dasman était un biologiste, écologue, et avait repéré des cohérences géographiques dans les milieux, et il s'intéressait donc à ce qu'il avait appelé des biorégions au sens strictement géographique du terme, où des massifs de montagnes, des plateaux, des bassins versants, des types de faune et de flore typiques de certains territoires, ce qu'on appelle les biomes aussi. Donc voilà, la convergence de ces trois approches, à la fois poétiques, la beauté des grands espaces, contestataires avec Peter Berg, qui était un activiste à San Francisco, et Et l'écologique au sens scientifique du terme, avec Raymond Dasman, a produit un texte qui s'appelait Re-inhabiting California, Réhabiter la Californie, qui a été publié dans la revue The Ecologist en 1977. Et c'est en 1977, donc, que dans ce texte qui s'appelait Réhabiter la Californie, ces trois auteurs ont lancé cette notion de biorégion qui est à la fois une notion géographique et une utopie, je dirais. Donc à la fois une notion géographique en termes de recherche de cohérence des milieux écologiques et une utopie parce que ces personnages et ces mouvements californiens avaient déjà très fortement conscience de l'overshoot, c'est-à-dire du dépassement écologique, c'est-à-dire de l'explosion de l'empreinte écologique par les activités des sociétés industrielles. Donc ces années 70 ont été très fertiles sur le plan de l'écologie politique, hein. Le premier sommet de la Terre a eu lieu à Stockholm en 1972. D'ailleurs, Peter Berg, le cofondateur de la notion de biorégion, était au sommet de Stockholm en 1972. Et donc, il y avait un creuset dans cette Californie de réflexion sur comment aborder un territoire par son socle naturel, par une nouvelle conscience de reconnexion avec la Terre, avec ce qui constitue le vivant. Et cette nouvelle conscience est résumée par cette notion de réhabiter, re-inhabiting, le fait de habiter autrement la Terre, notamment quand on est urbain, on est sur l'asphalte, on est coupé de ce qu'il y a sous l'asphalte. Qu'est-ce qu'il y a sous l'asphalte des villes? Il y a des réseaux d'eau, il y a des sources, il y a des connexions qui ont été complètement effacées par l'ère des métropoles, d'où cet essai prémonitoire de Dasman qui s'appelle donc La destruction de la Californie en 1965, où Raymond Dasman, qui était californien et très attaché à la beauté incroyable de la nature, de la wilderness, cette nature sauvage qui a été dérobée aux Indiens, d'ailleurs, qui habitaient ces territoires avant l'arrivée des colons américains. Cette nature qui a été arraisonnée, harnessed, comme on dit en anglais, par la construction de mégacités comme Los Angeles. En fait, voilà, Dasman décrit dans La destruction de la Californie cette espèce de rapport au monde qui est celui des colons américains et occidentaux qui détruisent en fait pour construire des métropoles complètement déconnectées des éléments naturels. En l'occurrence, Dasman décrit la construction de Los Angeles. Au début, Los Angeles, c'était un ranch avec des vaches, a cow town, une ville de vaches, un cow town. Il y avait, voilà, il y avait des grandes steppes sèches, très peu d'eau. Et donc, cette ville a été construite en dépit du bon sens des ressources naturelles et a nécessité des travaux colossaux de détournement des eaux du fleuve Colorado, au point d'ailleurs de priver les Mexicains en aval de ces eaux du Colorado pour irriguer aussi des plaines agricoles qui étaient des déserts et les transformer en production d'agriculture. Et donc cette manière d'habiter la terre, en fait, choque les biorégionalistes de la première génération, à la fois par son aspect colonisateur, donc le rapport au peuple autochtone, à la fois par son rapport au milieu que les métropoles ignorent totalement, que les constructeurs arraisonnent, hein, et peut-être aussi par rapport à une forme de poésie, d'être au monde, qui se perd dans une sorte de violence faite à la terre, Donc dans la conscience biorégionaliste, voilà, il y a cette conscience de la géographie, cette conscience de ce qui a été asphalté, de ce qui a été évacué, mis hors champ, et cette conscience de l'overshoot, notion centrale dans l'anthropocène, qui est la conscience du dépassement, en fait, de la démesure, en fait, de la manière dont les sociétés industrielles s'emparent de l'espace. Voilà. Donc ça, c'est la première vague biorégionale des fondateurs. D'ailleurs, j'ai appris, et ça m'a attristé, qu'il y a actuellement un dôme de chaleur au-dessus de la Colombie-Britannique. Et la Colombie-Britannique fait partie de la biorégion de Cascadia, qui est une espèce d'utopie territoriale à la fois réelle, à la fois rêvée, qui a été dessinée par les biorégionalistes sous la forme d'une magnifique carte qui va du nord de la Californie au sud de l'Alaska et qui englobe l'Oregon et la Colombie-Britannique. Et je vois que les monts Shasta, qui étaient des lieux particulièrement prisés par ces biorégionalistes pour leur beauté, sont en train aujourd'hui de partir en partie en flammes à cause de ces incendies inouïs qui ont lieu actuellement, enfin qui ont eu lieu la semaine dernière, donc en début juillet 2021. Donc ça, c'est la première vague des biorégionalistes. Et ensuite, dans les années, à la fin peut-être des années 1990, 2000, une vague italienne, donc des Italiens autour de Giuseppe Moretti, reprennent cette conscience des bassins versants et d'une manière de se positionner dans des échelles déterminées plutôt par les bassins versants, l'amont, l'aval, la mise en valeur des circulations d'eau. Cette notion d'échelle étant centrale dans l'approche biorégionale, un autre auteur a été capital en 1980, c'est Kirkpatrick Sale, qui est un Américain plutôt établi sur la côté est des États-Unis, qui a écrit « Dwellers in the Land » dans les années 1980, traduit par « L'art d'habiter la terre », où Sale prône une forme de sécession biorégionale, prône le retour aux régions naturelles, à des régions non pas administratives, mais gouvernées par la nature. Donc, de nouveau, cette conscience d'un rapport au monde et d'un rapport au milieu, donc de notion de réhabiter les milieux, et puis cette conscience de la démesure de l'overshoot que les biorégions ont vocation à corriger en créant des établissements humains beaucoup plus sobres, moins consommateurs d'espace et de ressources.
En t'écoutant, on pense beaucoup à la place du pétrole dans tout ça au cours du XXe siècle. Et en fait, tu as parlé des Indiens, du génocide des Indiens. Est-ce qu'ils vivaient ou elles vivaient naturellement ou naturellement dans le sens... dans leur style de vie, dans leur mode de vie, dans des espaces biorégionaux comme nous on le dirait aujourd'hui. Tu penses que ça serait vivre une biorégion, ça serait vivre une région avec très peu de pétrole, ou ça serait encore autre chose aujourd'hui au 21e siècle déjà, on pourrait inclure les trains, comment on réinterprète ce contact à notre environnement. J'avais envie de voir un peu par là comment tu vois imaginer aujourd'hui, peut-être un peu par-dessus des biorégions, ce qu'il y a des initiatives.
Alors la biorégion, effectivement, c'est une manière d'habiter les territoires qui passe par un nouveau type de conscience que les Indiens d'Amérique, et en particulier, par exemple, ceux qui habitaient là où se situe aujourd'hui San Francisco, possédés parce qu'ils étaient en connexion totale avec le milieu, avec ils mangeaient des moules de la baie. Ils avaient besoin finalement de pas grand-chose parce que les ressources étaient énormes. Il y avait énormément d'animaux sauvages, etc. Donc la manière biorégionale d'habiter un territoire, c'est d'abord une forme de conscience. Donc une pédagogie. Qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous fait respirer? D'où vient l'eau qu'on boit? D'où vient l'énergie qu'on utilise? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui nous fait vivre en fait? Donc, y a à la clé une cartographie des ressources disponibles à l'échelle d'un territoire géographiquement cohérent. Donc la question est de comment vivre dans une juste échelle sans utiliser, par exemple, en effet, des énergies lointaines. La biorégion, dans sa version post-métropolitaine, puisque à l'Institut Momentum, on a proposé la biorégion comme une sorte de contre-modèle aux métropoles. La biorégion, en effet, vise à ne plus utiliser que des ressources locales ou interrégionales, mais pas des ressources qui viennent de loin, sauf avec parcimonie. Peut-être des métaux cruciaux pour la médecine. Mais aujourd'hui, on est dans une forme d'exubérance énergétique qui est insoutenable. Donc la proposition biorégionale, dans sa version anthropocénique, je dirais, a vocation à trouver des échelles d'autonomie et de descente énergétique très fortes pour corriger l'overshoot. Concrètement, on a proposé une vision biorégionale de l'Île-de-France pour corriger la démesure métropolitaine du Grand Paris. Ce qui a supposé, dans notre scénario, de quantifier les ressources énergétiques disponibles sur le territoire de l'Île-de-France, de quantifier les surfaces agricoles et de proposer des mobilités post-automobile. Donc, en effet, il me semble qu'une biorégion aujourd'hui a vocation à proposer un modèle qui sorte complètement de l'utilisation individuelle des véhicules et qui propose une mobilité complètement différente. Et là, il est intéressant d'aller voir le patrimoine des décennies précédentes. Par exemple, la région de Bruxelles avait un réseau extraordinaire de petites motrices régionales et des petites lignes ferroviaires qui permettaient d'aller des campagnes environnantes à la ville de Bruxelles. C'était un maillage fin de trains qui me semble pouvoir être intégré à un modèle biorégional. Donc on a proposé pour l'Île-de-France de diviser par 50 le nombre d'automobiles et de réhabiliter toutes ces voies ferroviaires dont l'emprise existe encore, par exemple en Essonne ou dans le Vexin. Il y a plein de petites lignes qui permettaient de sauter à bord du train, même quasiment en marche, dans des gares de campagne, pour aller en ville, pour en revenir et transporter en même temps du maraîchage produit dans les territoires environnants, puisque l'idée de biorégion, c'est aussi d'être une région en équilibre avec les villes qui parsèment cette région. Il ne s'agit pas de complètement quitter l'urbain, mais il s'agit de redimensionner la cité par rapport à sa capacité de charge régionale, c'est-à-dire ce qui peut l'alimenter. Les biorégions, elles sont déjà là. Par exemple, ici, tu as la rivière qui s'appelle le Lef, LE2F, qui est un bassin versant local et qui peut constituer et fédérer un certain nombre de communes environnantes. Donc une biorégion, c'est d'abord une échelle liée plutôt à un bassin versant d'une rivière. C'est ce qu'on peut comparer à un pays, les pays dont on parlait au Moyen-Âge, avec leur cohérence géographique, je dirais. Donc des biorégions, il y en a des centaines, je dirais. En France, on ne les a pas quantifiées, mais potentiellement, il y en a beaucoup plus que de départements. Le département étant une entité administrative arbitrairement découpée par, je crois, Napoléon, hein, enfin c'est une vieille histoire, qui vise à créer des préfectures et des administrations de contrôle qui n'ont rien à voir avec la géographie, qui ont à voir avec des questions purement administratives. Alors que la biorégion propose de redessiner les territoires à des échelles beaucoup plus petites, à des échelles de bassins de vie, avec aussi des équilibres démographiques qui restent à définir et qui sont complexes à définir. C'est-à-dire que, par exemple, l'Île-de-France, qui compte 12 millions d'habitants, n'est absolument pas soutenable en termes d'équilibre entre la ville qui a dépassé le cadre d'une simple cité pour devenir une métropole et ses ressources. Paris et son agglomération ont une empreinte écologique qui va jusque à l'ensemble de la planète, je dirais. Bref, donc dans ta question, il y a plein de questions. On a proposé de dessiner 8 biorégions en Île-de-France et de répartir la population de l'Île-de-France dans ces 8 biorégions en créant des politiques incitatives d'installation dans les campagnes franciliennes autour d'une agriculture complètement revisitée par un modèle agricole centré sur le maraîchage, la réhabilitation des prairies. La réhabilitation du cheval, la fragmentation des champs qui aujourd'hui sont des monocultures mondialisées dans le bassin parisien, comme tu le sais, le blé que tu vois, les betteraves que tu vois, tout ça est exporté sur les marchés mondiaux et il y a pratiquement que 5% de la production agricole en Île-de-France qui est utilisée pour le marché alimentaire des Franciliens. En gros, à Rungis, c'est Rungis qui nourrit l'Île-de-France, c'est pas les champs qui entourent Paris. Donc l'idée, c'est que ça, c'est une situation qui n'est pas soutenable, même en termes de sécurité alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la logique des années 70, si tu veux. Donc nous avons revisité la notion de biorégion à l'aune de l'urgence de l'Anthropocène, c'est-à-dire à l'aune d'un risque d'effondrement. Et dès lors, les biorégions apparaissent comme une solution possible de sécurité collective dans une situation d'urgence qui nous semble réelle. Alors aujourd'hui, la pandémie du Covid, bon, n'a pas été très létale, même s'il y a eu déjà pas mal de morts. Bon, mais si un virus plus mortel devait arriver, combiné à une dépendance aux importations alimentaires, ne serait-ce qu'en provenance du sud-ouest, si tu veux, et tout ça véhiculé par camion vers Paris, il suffit que les chauffeurs de routiers ne puissent plus travailler et Paris n'est plus alimenté. Et en fait, tout le modèle est comme ça. Le modèle repose sur l'utilisation de combustibles bon marché, de navires cargo en provenance de la Chine, qui apporte des marchandises parce que le pétrole n'est pas cher, et tout circule tout le temps en flux tendu. Et si un jour tu as une panne de flux, ben c'est la famine, c'est la famine. Et donc on s'est inquiété de cette situation de ville affamée, qui pourrait frapper une ville aussi civilisée, entre guillemets, que la capitale de la France. Et pour nous, le Covid, ça a été une sorte de signe avant-coureur. Et on a eu une inquiétude l'année dernière quand on a vu qu'un certain nombre de professions dites intermédiaires, comme les routiers ou les soignants, bon, acceptaient de venir bosser. Mais si un jour il y a défection, les réseaux sont plus alimentés, y compris d'ailleurs les réseaux d'électricité qui reposent beaucoup sur le nucléaire. Donc là, la biorégion actuelle telle qu'on la développe dans notre scénario, c'est la biorégion dans l'Anthropocène, avec les enjeux propres à notre époque. Voilà.
Question concrète, dans cette étude, vous imaginez un Paris en 2050, je crois ? C'est ça ? Vous passez la... Vous ne vous rentrez pas trop dans le détail d'une période peut-être un peu turbulente, on va dire ça légèrement comme ça. La taille de cette ville que vous avez projetée, tu peux nous en parler un peu de... Vous êtes trois à avoir fait ce livre, c'est un livre collectif, à trois personnes. Vous êtes arrivé à une sorte de chiffre de... ville soutenable, entre guillemets, dans 30 ans, avec combien d'habitants, comment seriez-vous arrivé à ce calcul approx?
Oui, on a tenté un scénario démographique. On a imaginé que la population de l'Île-de-France allait en gros être divisée par deux dans les prochaines décennies. Donc on arriverait à 6 millions d'habitants au lieu de 12 millions aujourd'hui, pour des raisons multiples de départ volontaire, d'exode urbain, de désaffection du modèle métropolitain qui aurait perdu son attractivité économique, de complications climatiques liées à des vagues de chaleur plus difficiles à supporter en ville, un certain nombre de facteurs plus ou moins brutaux déclencheraient un exode massif, plus ou moins massif, plus ou moins précipité dans les décennies à venir et aboutirait à une dédensification de l'Île-de-France et en particulier de Paris et de sa première ceinture. Cette dédensification est à la fois subie à cause donc de contraintes à venir, économiques, climatiques, et proposée par une sorte de planification possible qui vise à dédensifier la ville, qui aujourd'hui, à Paris en particulier, et sa première ceinture, est insoutenable, parce qu'il y a trop de monde dans pas assez d'espace. La ville est trop dense, alors qu'elle est entourée d'une région extrêmement fertile, qui est complètement vide. Vide parce que abandonnée, parce que... investi par l'agriculture industrielle, alors que quand on étudie l'Île-de-France des années 1950, il y avait énormément de fermes, énormément de maraîchage, une diversité extraordinaire de cultures, que ce soit de fruits, de pommes, de pêches, d'horticulture, de plantes médicinales, de production de fleurs, de toutes sortes de fromages. Aujourd'hui, il y a le fameux brie de Seine-et-Marne, mais il n'y a pas beaucoup de fromages spécifiques à l'Île-de-France, alors que il n'y a pas si longtemps, tu vois, il y a moins d'un siècle, avant la construction du périphérique, en fait, il y avait cette ceinture verte extraordinaire et très large, d'ailleurs, autour de Paris, qui comportait des petits bourgs, des villages, qui étaient assez vivants. Donc on a étudié cette époque-là en lisant les travaux d'un géographe qui s'appelle Michel Flipponeau, et on a redessiné cette Île-de-France à partir d'un imaginaire de post-automobile, parce que pour libérer ces espaces, il faut mettre un terme à l'utilisation et aux infrastructures qui vont avec l'automobile. Donc fracturation du périph, radiale forestière... abandon de la francilienne, abandon des aéroports, tout ça est un scénario très radical, mais qui va composer un rapport complètement différent au foncier qui aujourd'hui est morcelé par tous ces axes routiers et du TGV d'ailleurs aussi, et qui a vocation dans notre vision, à être composé de trames vertes et de continuités écologiques qui aujourd'hui, encore une fois, sont fracturées par ces infrastructures. Donc on a cartographié à la fois ces trames vertes, à la fois ces trames de mobilité douce qui vont quand même s'appuyer sur un reste d'infrastructures goudronnées, mais qui seront des véloroutes, et aussi la réhabilitation de petites lignes ferroviaires, et le tout dans un scénario démographique allégé par la planification post-métropolitaine d'une France qui ne cesserait de valoriser cette idée de métropole attractive et qui commencerait à se préoccuper de territoires plus résilients, plus autonomes sur le plan énergétique, réhabilitant leur puissance alimentaire et quittant progressivement la dépendance aux grands circuits mondiaux. Donc ça, ce serait l'utopie. Mais on risque d'avoir à faire ça de manière précipitée, sous la pression des faits. À mon sens, la décroissance, c'est la réponse aux enjeux de l'anthropocène. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, bien entendu, mais il y a plusieurs scénarios possibles, soit le crash, soit une descente créative des économies et de la consommation d'énergie. Donc la décroissance est mal comprise quand certains l'amalgament au déclin et à la récession. En réalité, à force d'y travailler, pour moi, la décroissance, c'est aussi une forme d'utopie politique constituée autour d'un changement total de civilisation et de société, d'une société très industrielle qui repose actuellement sur une utilisation déraisonnable d'énergie fossile à une société constituée d'échelle beaucoup plus locale, de consommation au moins 4 fois moindre d'énergie par individu, de solidarité, d'entraide, en effet d'accès aux biens communs et de sécurisation de ces biens communs. Alors la décroissance a été conçue, c'est vrai, en partie par l'économiste roumain Nicolae Georgescu Roghen, qui a analysé la dépendance et l'imbrication de l'économie dans les énergies fossiles, et il a pris conscience que cette situation de lien intrinsèque entre la croissance économique et les énergies fossiles était non seulement non viable dans le temps long, mais en plus périlleux pour l'humanité. Et donc l'idée, c'est d'imaginer des sociétés post-fossiles et post-productivistes, fondées sur un usage parcimonieux et égalitaire des ressources, sous la forme de rationnement, notamment des énergies fossiles, un rationnement délibéré et fixé après délibération sur des seuils à définir de soutenabilité climatique et énergétique. Voilà. Et égalitaire. Donc, autour de la décroissance, il y a cette idée de nécessaire descente énergétique, de redimensionnement des établissements par rapport à la réalité des ressources dans les territoires, et la biorégion fait partie potentiellement des propositions de décroissance. Il y a un rapport au monde complètement différent, lié plutôt à la célébration des communs, à la démonétarisation des sociétés, à la déconnexion du travail d'avec la production, à savoir ralentir la production, ralentir le travail, limiter le temps de travail pour ralentir la production, relocaliser ne plus produire de déchets, bien entendu, et finalement se retrouver dans un redimensionnement de la taille des établissements humains par rapport aux ressources disponibles, et donc même s'accorder sur une forme de descente démographique également, surtout en Occident, puisque par individu, ce sont les Occidentaux qui consomment le plus de ressources par personne. Donc la question démographique fait partie de la décroissance, même si malheureusement elle reste taboue dans nos sociétés, beaucoup plus d'ailleurs en Europe que dans les réflexions anglo-saxonnes. Effectivement, il y a un tabou sur la question des limites. On est habitué depuis 60, 70 ans, les 30 glorieuses et leur suite, à consommer sans limite. On nous a seriné avec la productivité. La production et la consommation sont les totems de nos sociétés. Et on est formaté par ça, et donc toute contre-indication à cette consommation illimitée et jouissive qui constitue la culture de nos sociétés de consommation est un tabou. La question des limites est un tabou dans ces sociétés gavées d'accès à l'espace, à l'avion, à des biens plus ou moins obsolètes, etc. Donc, il y a effectivement une éducation immédiate à la sobriété et aux limites à promouvoir. Alors, ce qui est étrange, c'est que maintenant, on est dans un tiraillement de plus en plus sensible entre ce que nous disent les climatologues du GIEC, hein, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui prépare son 6e rapport à apparaître l'année prochaine, qui tire la sonnette d'alarme vraiment en nous disant que sans mesures drastiques et immédiates, on va vers une apocalypse climatique, là. Et de l'autre, on déconfine, business as usual, on prend l'avion, tabou. Donc que dire, que faire? Eh bien, il y a eu cette convention citoyenne pour le climat qui a montré que quand on convie des citoyens tirés au sort, en l'occurrence 150 citoyens tirés au sort, et qu'on les forme à ces débats-là, ils sont capables d'énoncer des propositions plus radicales que prévues, d'où d'ailleurs l'embarras gouvernemental. Donc je pense qu'il faut multiplier des états généraux sur la nécessité des limites, fixer des seuils, trouver un nom à ces états généraux. Je crois que la notion, en effet, de seuil et de limite, ces deux notions sont des notions constitutives des politiques de décroissance. Ces seuils sont d'ailleurs difficiles à fixer, on le voit, même les scientifiques ne peuvent pas te dire exactement combien d'hectares il faut arrêter de déforester ou à partir de quel niveau d'émissions de tel gaz à effet de serre, tu vas avoir tel effet de bascule du climat. Mais il y a quand même maintenant des données précises sur ces seuils à ne pas franchir. Et, par exemple, en Bretagne, la quantité de nitrate diffusée par les fermes industrielles bretonnes, on sait très bien fixer un seuil à ces nitrates. Et donc, ici et maintenant, on pourrait tout à fait politiquement fixer ces seuils. Malheureusement, vient d'être réélu ici en Bretagne un président de région qui a évidemment l'oreille des lobbies agricoles, lesquels lobbies agricoles restent assez violents et n'entendent pas les choses de cette oreille, parce qu'il faut tout réformer en même temps et on se retrouve pris dans le verrouillage socio-technique qui fait partie de l'effondrement, qui fait qu'on ne peut pas gouverner rapidement un État comme la France, parce qu'il y a un ensemble de verrouillages. Donc pour gouverner rapidement et déverrouiller, il faut s'affronter à ces lobbies et en même temps sortir de la mondialisation. Alors ça fait beaucoup en même temps, parce que tout a été fait pour que les cochons bretons soient nourris par le soja brésilien, même si aujourd'hui on voit des mesures intéressantes arriver, où maintenant il y a de la luzerne qui arrive en Bretagne et d'autres légumineuses qui vont permettre de nourrir les cochons bretons avec moins de soja transgénique et plus de luzerne bretonne. Il y a un début de réformes qui vont dans le bon sens, mais on est pris dans un écart entre l'urgence et le verrouillage. Bref, donc on sait ce qu'on doit faire. Je pense qu'il faudrait vraiment changer de vocabulaire. Et c'est ce à quoi nous essayons d'œuvrer modestement avec l'Institut Momentum, mais d'autres réseaux le font aussi, bien sûr, de oser parler des limites, oser mettre au cœur du débat de la dite transition écologique, qui n'en est pas une, qui est du business as usual maquillé en vert, alors qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de transition, il s'agit... Ici et maintenant, combien de vols en avion, combien de litres de carburant par mois, par individu et par catégorie d'industrie, et cela, non pas sous la forme d'une taxe qui a déclenché la colère des gilets jaunes, à juste titre, mais sous la forme d'un quota annuel d'énergie fossile par individu, que on pourrait tout à fait fixer dès demain par décision gouvernementale et qui n'aurait rien de scandaleux parce que ce serait le même pour chacun. Mais assorti à ce quota, il faut une offre alternative effectivement à l'automobile par exemple et une offre agricole différente. Alors les choses encore une fois arrivent par fragments mais pas assez vite. Et je pense que on a besoin d'un crash programme, c'est-à-dire de mettre au cœur de la société un crash programme, hein, ce que proposent les Californiens du Post Carbon Institute, et ce que nous proposons à l'Institut Momentum. On crash même, eux ils disent on crash.
On crash.
Ouais, tu vois, c'est plus marrant. Pour éviter.
Bon.
Écoute, c'est le thème Uncrush Program, c'est l'idée des trois tomes des politiques de l'Anthropocène. C'était exactement ça qui m'a motivée à convier les auteurs de ces ouvrages collectifs. Je dirais la première ligne, c'est un revenu d'existence pour chacun, qui permet de déconnecter l'activité de la production, et donc de ralentir la production. C'est-à-dire que pour gagner ta vie, tu n'es plus obligé de produire. Tu reçois un revenu d'existence inconditionnel, tu travailles en complément, éventuellement on conditionne le revenu d'existence à des activités de réparation écologique, de réparation des écosystèmes, d'un certain nombre d'activités économiques à lister, ce qu'a d'ailleurs fait l'économiste Sophie Swatton en Suisse. Donc je dirais que première ligne de proposition, c'est assurer la dignité, la décence, comme disait George Orwell, de la vie des personnes pour éviter la grande pauvreté. Et pour cela, on voit bien que si on veut balancer de la monnaie hélicoptère, c'est tout à fait possible, puisque en temps de Covid, on a vu que les institutions financières de l'Europe, la Banque Centrale Européenne, a su dégager des milliards et des milliards pour permettre à l'économie de tourner en temps de Covid. Donc quand on veut dégager de l'argent, on peut. Donc on peut, à mon avis, financer ce revenu d'existence à l'échelle de la France ou de l'Europe, afin à la fois d'assurer la décence et de ralentir la production. Le deuxième axe, je pense, il tourne autour du redimensionnement des échelles de la production, c'est-à-dire de s'orienter vers une sortie progressive de la mondialisation massive de biens et services qui repose sur une spécialisation international des économies, à savoir l'Afrique produit du cacao, du bois et du café, et nous on produit des cochons et de l'eau chez Veolia, et la Chine produit des téléphones portables, et tout ça circule en permanence sur la planète et fait qu'il n'y a plus d'agriculture vivrière en Afrique. Et que la Chine produit et devient l'usine du monde, et nous, on importe tout ça et on produit ce qu'on sait produire. Je pense que on doit être polyvalent, donc rapatrier un certain nombre de manufactures sur nos territoires, rapatrier des savoir-faire dans une perspective à la fois de relocalisation partielle de l'économie et de stricte limitation de la consommation à des produits strictement nécessaires. Donc limitation de la production de téléphones portables, de, etc., etc., de tout ce qui est produit obsolète, en finir avec l'obsolescence dans un contexte de relocalisation de l'industrie et de l'agriculture. Avec quand même le maintien d'échanges, bien entendu, internationaux. Il ne s'agit pas non plus de vivre dans des forteresses, et en plus on ne sait pas tout faire, on continue à avoir besoin d'échanges, mais moins de spécialisation, plus de polyvalence. Donc ça, je dirais que c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, je pense que il est autour de la valorisation de ce que Georges Bataille appelait la dépense improductive, c'est-à-dire revenir à une vie en commun, dans des lieux collectifs, promouvoir les communs, en effet, la place publique, la fête, le partage, organiser des événements dans les communes, beaucoup plus réguliers, dans les villes, dans les quartiers, dans les campagnes, pour promouvoir une sorte de municipalisme de proximité axé sur la célébration de ce qu'on a en commun, et il ne s'agit pas d'identitaire localisé, au contraire, il s'agit d'accueillir autour d'événements collectifs les gens qui habitent là, et aussi ceux qui n'ont pas d'endroit pour habiter, ce qu'on appelle les migrants, autour de formes d'hospitalité à redéfinir, et qui me semble vitale, parce qu'on va avoir besoin les uns des autres en temps de difficultés qui nous attendent, je pense. Hein. On nous parle de climat qui dérive, on voit ce qui se passe ici et là. Donc je crois que le fait de regarder la télé chez soi le soir, ça va pas être une réponse à la question des communs, qui est elle-même une question compliquée, mais qui concerne le soin apporté à ce qui nous entoure, aussi bien à nos voisins qu'aux ressources qui nous font vivre et donc qu'on doit connaître et soigner. Donc voilà, c'est un troisième pôle de Uncrash Programme, les communs, la convivialité, la dépense improductive, c'est-à-dire dépenser non pas dans la sphère privée, mais dans la sphère collective. Alors, trouver une économie de la dépense, non pas qui va être réinvestie dans ma consommation personnelle, mais dans l'entretien de ce qui nous lie, à savoir ce qui nous nourrit et ce qui nous fait respirer et ce qui nous fait être ensemble. La fête, des rassemblements, des traditions à réinventer, des rendez-vous régulier, une pédagogie à l'échelle des municipalités et des quartiers, d'accueil et d'entraide. Voilà. Donc je pense que ces trois actes-là pourraient constituer des politiques de décroissance. Alors Walter Benjamin a eu l'intuition de l'anthropocène, à mon sens, en décrivant ce qu'il appelait le caractère destructeur du productivisme, lequel caractère destructeur est entré sur la scène de l'histoire avec le fracas de la Première Guerre mondiale et avec l'utilisation de machines de destruction qui ont en même temps inauguré une époque inédite d'industrialisation, puisque c'est à partir de la Première Guerre mondiale qu'on rentre dans le système véritablement de l'industrie de masse, qui coïncide aussi avec une industrie de la destruction. Et Benjamin met en rapport la croissance avec la capacité de destruction. Et tout au long de son œuvre, il va conjuguer ces deux pôles de l'émergence de la marchandise et en même temps de ce caractère destructeur des sociétés productivistes qui, par leur puissance technologique, ont tendance à enfler jusqu'à exploser à travers des conflits mondiaux comme celui de la Première puis de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il y a comme ça cette ambivalence du productivisme qui est sous-tendu en réalité par des pulsions destructrices. Donc ça, c'est une première chose. Et à ce titre, Walter Benjamin me semble être un annonciateur de la grande accélération de l'anthropocène qui elle-même prend source dans des inventions destructrices comme les bombes et les gaz utilisés pendant la Première Guerre mondiale, qui ont préfiguré l'utilisation ensuite des processus d'enrichissement des engrais par l'azote. Hein, le processus dit Haber-Bosch, il était d'abord utilisé dans les bombes, et ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a la bombe atomique qui ensuite va donner le nucléaire. Enfin, toutes ces forces sont liées et elles ont une sorte de puissance presque mythologique. Et en même temps, elles sont acosmiques. Et ça aussi, Walter Benjamin le décrit dans un très beau texte qui s'appelle Vers le planétarium, où sur la scène des tranchées de la Première Guerre mondiale, le ciel n'est rempli que d'étincelles de bombes, mais on ne sait plus déchiffrer les étoiles. En fait, on a perdu le sens du cosmos avec l'avènement de la technique de masse. En fait, on ne sait plus lire dans les étoiles, on est rabattu dans un système productif et une sorte de technique sans recul sur elle-même. Bon, ça, c'est une première étape et la deuxième étape, je dirais, c'est la critique de l'utile chez Walter Benjamin avec la figure du flâneur et du collectionneur qu'il met beaucoup en avant. Lui-même était collectionneur, il fréquentait les brocantes, il glanait des objets, il avait une bibliothèque aussi très importante qu'il transportait dans ses exils successifs à partir de 1933. Il recueille comme ça des fragments du passé et des fragments d'aura, puisqu'il parle aussi de ce concept d'aura qui est lié au caractère unique d'un objet, d'une image, d'un tableau ou d'un instant vécu même, chargé d'intensité. Et il décrit l'érosion de l'expérience vécue. À partir du moment où la machine, et en particulier l'image reproduite en série par le cinéma et la photographie avant le cinéma, va interférer avec l'unicité de la perception et va fabriquer une présence au monde totalement nouvelle qui passe par les machines, qui passe par la publicité, qui passe par le cinéma, mais qui n'est plus immédiate. Et donc en fait voilà, à travers l'avènement de la reproduction de masse des images, Benjamin utilise l'aura comme la métaphore de l'intensité de l'expérience du monde vécu et la perte d'aura, donc à contrario, ça va être un phénomène qu'il décrit de manière très originale, que peu d'auteurs à son époque ont entrevu, à savoir l'appauvrissement de l'expérience du monde. C'est bien ce qui nous arrive d'ailleurs aujourd'hui, et ce que beaucoup de philosophes aujourd'hui interrogent, mais c'est assez récent, c'est cette espèce de déconnexion par rapport au vivant qui est la nôtre, parce qu'on est entouré de prothèses, de connexions diverses, d'écrans divers, qui fait que on a un rapport au vivant qui est finalement assez distancié depuis quelques décennies, voire depuis plus d'un siècle en réalité, en tout cas un bon siècle. Et disons de l'époque où écrit Benjamin, c'est le début de cet état de fait qui voit d'ailleurs advenir aussi d'autres philosophes de l'école de Francfort qui est née dans les années 30 et à laquelle Walter Benjamin participait, ce qu'on appelle la théorie critique, qui est un ensemble de penseurs de l'époque, notamment Georg Simmel, par exemple, Benjamin, Adorno, Horkheimer, qui s'interrogent tous sur l'effet de la technique sur la qualité de l'expérience vécue du monde. Voilà, pour simplifier. Et à travers cet appauvrissement de l'expérience, se déroule une crise majeure de la perception et finalement de l'être au monde qui, avec l'avènement des techniques de masse, va subir une forme d'aliénation finalement. Ce qui fait que la figure du flâneur, chère à Baudelaire et à Walter Benjamin, va disparaître au profit d'une figure aliénée qui ne connaît plus la flânerie et qui ne connaît plus non plus l'unicité de l'objet, le recueillement devant un tableau, parce que économie du choc, choc perceptif, stimuli des grandes villes, donc appauvrissement de la qualité de l'instant présent. Donc tout cela, pour moi, ça a un rapport avec la décroissance, parce que il y a une forme de saturation de l'infini, hein, d'ailleurs un des numéros de la revue Entropia, qui était une revue dédiée à la décroissance, se portait le titre magnifique de l'infini saturé. Et en fait, c'est vraiment ce que décrit Benjamin, c'est l'infini saturé. C'est que à travers le productivisme, le monde est saturé d'objets, et cette saturation nous amène à la crise et la catastrophe que Benjamin a décrite avec beaucoup de voyance, je dirais, hein, puisque un des axes de sa pensée, c'est aussi la question de la catastrophe à travers le temps linéaire du progrès. Pour Benjamin, le progrès induit une forme particulière de représentation de la temporalité qui n'est plus cyclique, mais linéaire et censée être continuiste. On se projette toujours dans une économie de la promesse grâce au progrès technologique. Le monde ira de mieux en mieux et c'est un progrès sans fin et sans limite qui se situe dans ce que Benjamin décrit comme un temps linéaire de l'éternel retour du même qui est en fait un temps vide d'expérience, un temps vide d'intensité, un temps aliénant cadencé par les machines et par l'illusion donc de ce progrès qui devient une forme de téléologie acosmique encore une fois. Et en plus, qui est d'essence catastrophique, parce que la réalité du temps n'est pas linéaire. Et Benjamin est très sensible aux moments de seuil, aux bifurcations. Par exemple, les moments de la Révolution française, qu'il décrit dans le livre des Passages, à travers des figures comme Auguste Blanqui et l'utopisme du premier socialisme, les utopies socialistes. D'un Fourier, d'un Blanqui, ce premier socialisme est d'essence révolutionnaire, et l'essence révolutionnaire, c'est un arrêt du temps. C'est un arrêt du temps, une révolution induit un nouveau calendrier. Ça a été le cas de la Révolution française, qui a changé le nom des mois, Brumaire, etc., Vendémiaire, etc. Les révolutionnaires ont eux-mêmes fixer les horloges pour arrêter le temps et redéfinir une utopie. Finalement, la Commune, ça a été un peu la même chose, un arrêt du temps comme ça. Et en fait, voilà, l'histoire n'est pas linéaire. C'est ce qu'écrit Benjamin dans les thèses sur la philosophie de l'histoire. Non seulement il stigmatise le vide du temps linéaire du progrès, mais en même temps, il valorise le temps messianique de l'utopie, qui est un temps fait de bifurcations, de seuils et de basculements, pour le meilleur et pour le pire. Et là, aujourd'hui, on se situe plutôt dans une situation de seuil, de basculement, où les ferments d'utopie doivent être absolument mobilisés pour convoquer autre chose, une forme de sauvetage. Et la figure de l'ange de l'histoire chère à Benjamin est peinte par Paul Klee. Walter Benjamin se promenait avec ce tableau de Paul Klee, hein, qui représente un ange aux ailes ouvertes, et transportait ce petit tableau dans sa mallette. Et ce petit tableau a été retrouvé par Hannah Arendt et sauvé. Il est actuellement exposé à Jérusalem. Et ce tableau est la métaphore de l'ange de l'histoire. Benjamin développe une philosophie de l'histoire à la fin de sa vie. En 39-40, il écrit les thèses sur la philosophie de l'histoire. En fait, c'est une partie du livre des passages et d'un grand œuvre qu'il n'a pas pu publier puisqu'il est mort prématurément. Mais une partie très importante de l'œuvre Benjamin, c'est sa philosophie de l'histoire et sa réflexion sur le progrès. Et l'ange de Paul Klee représente donc un ange à visage humain, avec des ailes déployées, qui fait face au vent de l'histoire qui recule en fait, propulsé par cette tempête du progrès, laquelle tempête du progrès mène à la catastrophe. Et donc cet ange, c'est à la fois la victime et peut-être la figure du sauvetage à laquelle Benjamin était aussi attaché en tant que juif. Même s'il se revendiquait pas de son judaïsme, était présente en lui une forme d'utopie messianique, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans l'histoire la possibilité d'une apparition, d'une figure ou d'un moment de lucidité et de cristallisation collective qui va permettre d'infléchir le cours de cette catastrophe. Et l'ange aussi la figure de ce possible-là.